Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Olivier Py, directeur du Festival d'Avignon, en a fait l'annonce officielle. En juillet 2018, le festival va explorer le genre, la transidentité, la transsexualité. Il est temps en effet que la manifestation et au-delà d'elle le théâtre se mettent au diapason de la société contemporaine. Cette société du 21e siècle est en train doucement et on l'espère sûrement de faire sienne la phrase de Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient », phrase à laquelle il faudrait sans doute ajouter à l'aune des études de genre qui ont investi le débat public, qu'on ne naît pas davantage homme, on le devient également. Nous ouvrons aujourd'hui le chapitre féminin ou masculin, féminin et masculin, d'une saison au théâtre, encyclopédie en mouvement d'un art trans, par excellence. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h, bienvenue.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Don't forget the night. When the day began, don't forget the night, 'cause just finished. Don't forget the day, while just living. When the day began, don't forget the night.
Bonjour Thomas Cepitelli.
Bonjour.
Vous êtes professeur de lettres, chercheur en sociologie de la culture, docteur en littérature comparée, auteur d'une thèse consacrée aux représentations et aux interprétations par les publics des rôles de l'homosexuel masculin dans le théâtre en France au XXe siècle. L'un des axes de votre travail porte sur les représentations des minorités sexuelles et racisées au théâtre. C'est donc en très bonne compagnie que nous allons explorer ce territoire passionnant, très vaste, qu'est la présence, à moins que ce ne soit l'absence, sur les scènes de théâtre du XXIe siècle, des personnes transgenres, transsexuelles ou travesties. Et je voudrais, en préambule de cette émission, Thomas Cepitelli, vous proposer d'entendre un premier son. Voici les mots de l'actrice Fanny Ardant, interviewée pour son rôle d'homme devenu une femme dans Lola Pater, un film de Nadir Moknesh.
J'aimais l'idée que moi, Fanny, je pouvais entrer dans une nouvelle nationalité, une nouvelle appartenance sexuelle, que tout ça s'est fait pour les passeports, que l'être humain est beaucoup plus mouvant et que les frontières sont beaucoup moins définies qu'on pense.
C'est Lola.
Mais qu'est-ce que tu t'es fait ?
Je lui permets de rectifier un peu son boulot.
Si tu vois, un film, c'est comme une bouteille à la mer. La plus grande part de ma morale à moi, qu'est-ce qui me l'a formée ? C'est pas des curés en chair, ou c'est pas des petits donneurs de leçons, ni des professeurs. C'est les romans. C'est le cinéma.
Et le théâtre ? A-t-on envie d'ajouter Thomas Cepitelli à ce que vient de dire Fanny Ardant ? Fanny Ardant, grande actrice populaire, interprétant au cinéma un rôle d'homme qui se transforme en femme. Est-ce que cela aide à combattre les idées reçues ? Je l'ignore, je l'espère. Mais ce qui me paraît important, c'est ce qu'elle dit de l'influence et du rôle que joue l'art dans la mutation des états d'esprit. Est-ce que, selon vous, dans ce registre, le théâtre, Thomas Cepitelli, est à la pointe du combat ? Est-ce qu'il est une figure de proue ?
Alors, certainement moins que la littérature. Je pense entre autres, par exemple, à Virginie Despentes. Et à Verdun Subutex, les trois volumes qu'elle vient de sortir, qui ont beaucoup interrogé ces questions-là, la question du sexe social, qui est un mot qu'on pourrait substituer à celui de genre, et des personnes transidentitaires, qui est un mot que je préfère à celui de transsexuel. Le théâtre, peut-être un petit peu moins, sauf quelques spectacles qui me semblent ont vraiment interrogé cette notion-là de manière poétique, intelligente, politique. Je pense à Regarde maman, je danse, qui est un spectacle de Vanessa Van Dourme, qui était une grande danseuse qu'on a connue chez Alain Platel, par exemple, qu'on a pu voir aussi dans Gardenia, dans ce superbe spectacle où des messieurs transformistes, pour le coup, travestis de leur métier, venaient terminer leur spectacle et nous montrer comment ils se préparaient à jouer. Sur la question de la transidentité, on a aussi quelques personnages chez Coppi, chez Rainer Maria Fassbinder, par exemple, donc Goutte d'eau sur pierre brûlante, qui sont des rôles qui nous ont interrogés sur quel est le parcours d'une personne transidentitaire, quels sont ses rapports à la société et quel rapport la société entretient avec eux et elles.
Vous avez, il y a quelques années, Thomas Epitelli, écrit un article absolument passionnant intitulé « Quand le récit ne dit pas » sur l'indétectabilité des homosexuels dans le théâtre. Est-ce qu'on peut rebondir de cet indétectable de l'homosexuel dans le théâtre du XXe siècle à l'indétectable, sans doute aussi, des transsexuels, des transgenres sur les scènes de théâtre ou dans les œuvres de théâtre même ?
Alors oui, certainement. Moi, je pense que les deux histoires sont alliées, comme même l'histoire du féminisme d'ailleurs, aussi.
Même combat.
Moi, même combat.
Même processus, même combat.
Oui, parce que même ennemi commun, j'oserais dire, c'est la domination masculine, patriarcale, voilà. Et même ressort en fait chez les artistes. Dans l'article dont vous parlez, il y a cette question que je posais de Roger Martin Dugard, en partie. Hein, c'est une pièce de 1932 jouée par Louis Jouvet et Pierre Renoir, mise en scène par Louis Jouvet au Théâtre des Champs-Élysées. Donc on n'est pas du tout dans un théâtre restreint que le grand public ne peut pas connaître. Hein, c'est très important. Roger Martin Dugard aura le prix Nobel 2 ans après. Donc on est vraiment dans la plus grande visibilité. Bien, Martin Dugard réussit une chose absolument fabuleuse, c'est qu'il cache le sujet de sa pièce à ses spectateurs jusqu'à l'avant-dernière scène du dernier acte. C'est extraordinaire. On apprend que ce Thierry, qui est le taciturne, c'est un taciturne le titre de la pièce, va annoncer qu'en fait, il a du désir et de l'amour pour un garçon juste avant la dernière scène, avant de se suicider. C'est énorme de cacher le sujet essentiel d'une pièce à ses spectateurs. Moi, ce qui m'intéresse dans la transidentité et dans ce qui peut intéresser les spectateurs et les auditeurs, j'espère aujourd'hui, c'est aussi la question de qu'est-ce que c'est qu'être masculin et qu'est-ce que c'est qu'être féminin. Et cette question-là, je crois que chacun et chacune se la pose tout le temps, même en dehors de la scène. Et la scène peut nous aider à y répondre. Le théâtre, il me semble, et ça me fait penser à Chimamanda Ngozi Adichie,
oui, absolument,
qui raconte quelque chose que j'aime énormément dans une conférence TED. Ça s'appelle une single story, d'ailleurs une histoire unique, hein, qui est de dire « Moi, je suis une petite fille noire qui lit des livres ou lise des petites filles blanches. Est-ce que j'ai le droit de lire ?» Voilà. Et donc, elle dit « C'est pas très grave s'il y a des clichés dans les représentations. C'est pas très grave le stéréotype. À la seule condition qu'il y ait plusieurs histoires qu'on nous raconte. »
Chimamanda Ngozi Adichie, d'ailleurs, a écrit un très court livre qui s'appelle « Nous sommes tous des féministes », dans lequel elle écrit cette phrase assez intéressante, et voire même très intéressante, étant donné la personne qu'est cette romancière. « Ce n'est pas la culture qui crée les gens, ce sont les gens qui créent la culture. »
Mais à l'inverse, la culture nous renvoie nos propres identités au travail. Tout le travail de ma thèse, par exemple, ça a été de montrer que finalement, le théâtre disait autant de la société. Évidemment, ça paraît relativement normal. Où on en est des questions de genre, par exemple des questions trans. Aujourd'hui, alors peut-être que le festival et la programmation d'Olivier Pie nous le dira en partie pour cette année, mais aussi très certainement que ce que la société dit du théâtre dit quelque chose de la société. Voilà. Ce que la critique théâtrale dit de la société, ce que les universitaires, mais aussi ce que les spectateurs disent du théâtre, nous raconte quelque chose de la société et des rapports qu'elle entretient avec des questions de marginalité, encore, somme toute.
Est-ce qu'on peut refaire un détour par votre article, Thomas Epitelli, et passer par ce que vous racontez de La Cage aux Folles ? Spectacle qui est devenu d'ailleurs un spectacle culte, qui mettait en scène Michel Serrault et Jean Poiret dans des rôles, en tout cas pour Michel Serrault, le rôle d'une femme. En fait, il dissimulait dans ce personnage de femme qu'il s'était composé son homosexualité. Et là encore, pour vous, il y a de l'indétectable.
Alors, juste pour rappeler très très rapidement, hein, c'est un couple de garçons qui tient un cabaret de transformistes, hein, donc de travestis qui chantent et qui dansent des numéros tous les soirs. Et ces deux garçons vivent ensemble. Sauf que un de ces deux garçons, qui donc est joué effectivement par Michel Serrault, est ce qu'on va appeler efféminé. C'est-à-dire que tout ce qu'on pense du féminin, il le porte. Alors, on est dans le cliché, hein, les soieries, les fanfreluches, les plumes, ne pas savoir tenir une baquette comme un vrai mec, puisque c'est le exactement ce que dit la pièce. Hein. Et au fond, là-dessus, on est face à un duo, qui est un duo masculin-féminin, qui permet d'absolument anesthésier le fait, rendre invisible le fait que c'est un couple de garçons qu'on a en face de nous. Et que c'est un couple de garçons qui a élevé un enfant. Je suis un grand défenseur de cette pièce, parce qu'elle me semble dire beaucoup moins de clichés que ce qu'on ne pense. En fait, c'est le seul couple de garçons dans les années 70 qui élève un enfant et qui a rempli des salles entières pendant des années.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
Je voudrais qu'on passe, Thomas Cepitelli, par les propos d'Olivier Py, qui non seulement, comme vous le savez, dirige le Festival d'Avignon, mais qui promène depuis 30 ans en scène son double, Miss Knife, une chanteuse de cabaret qui a grandi, mûri et quasiment vieilli avec lui. Il l'a créé, voici, plus de 30 ans.
Il y a 30 ans, c'était très transgressif. Aujourd'hui, j'ai des familles, j'ai des enfants dans le public. Les enfants adorent Miss Knife. Mon père adore Miss Knife. Enfin, c'est vrai qu'il y a absolument toute la société qui se retrouve. Donc c'est peut-être moins transgressif qu'avant. Ça reste aussi fort politiquement. Je crois qu'il y a une certaine parole sur la liberté. Moi, je suis cisgenre. Hein. Dans la vie, je suis un homme qui ressemble à un homme. J'ai même jamais eu de désir transgenre. Mais je crois que dans ce personnage de Miss Knife, je témoigne pour tous ceux qui ont un genre différent. Miss Knife, elle a connu des menaces de mort, des violences machistes, parce que je faisais vaciller toute identité stable. Et ça, le patriarcat, il n'aime pas toujours.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Thomas Cepitelli, à la suite d'Olivier Py, en quoi l'apparition en scène, peut-être, de celles et ceux qui disent que leur sexe biologique ne les assigne pas à une identité ou une orientation sexuelle, est une menace pour le patriarcat? Vous avez fait tout à l'heure allusion à la domination masculine. Lui, Olivier Py, parle de patriarcat, c'est au fond un peu la même chose. En quoi c'est une menace? Qu'est-ce que ça trouble à ce point pour qu'il y ait entrave?
Bien, c'est un petit peu ce qu'expliquait très bien Françoise Héritier sur la binarité. Le monde est construit dans une binarité noir-blanc, juste-vrai, homme-femme, masculin-féminin.
L'intermédiaire ne peut pas exister.
Et du coup,
l'entre-deux ne peut pas exister.
Exactement. Et dire que les frontières sont poreuses, elles sont poreuses dans le temps, elles sont poreuses entre les sociétés, elles sont poreuses entre les classes sociales, elles sont poreuses tout le temps. Ces frontières, et même au sein de notre propre vie, nous ne vivons pas, même si on est cisgenre, c'est-à-dire si on vit
en conformité et en accord
exactement, avec entre son sexe biologique et son sexe social, eh bien pour autant, je ne suis pas le même homme aujourd'hui qu'il y a 15 ans, et certainement pas le même que dans 15 ans. Ma masculinité, mes masculinités, elles évoluent, et c'est pareil pour chacune et chacun. Et ce qui est formidable, je trouve, dans Miss Knife, c'est que Olivier Py va au-delà du numéro de cabaret. Dans le numéro de cabaret, ce qu'on attend, ce qu'on a longtemps attendu, par exemple, chez Madame Arthur, c'est plus le cas maintenant, ou chez Michou, c'était que des hommes se déguisent en femmes, mais qu'ils devaient ressembler à des femmes. On devait croire que c'était Dalida, Barbara en face de nous. Très bien. Il y a 30 ans, Py fait quelque chose que redécouvre la scène queer maintenant, qui est de dire « Je suis ni un homme ni une femme, je me tiens au milieu ». On ne croit pas que Miss Knife est une Miss. Elle a quelque chose de beaucoup plus perturbant. Et du coup, de dire donc qu'on peut être un homme et porter une robe, et parler de soi au féminin. Et mais donc, inversement, ce que fait Louiseville, c'est être une femme cisgenre, être habillée en mec, comme elle le dit, en gars, en plombier, mais pourtant être ultra féminine. C'est toutes ces questions-là qui sont absolument passionnantes et qui forcément nous font vaciller sur un socle. Sur ce bloc qui est quand même très très reposant, de savoir d'un côté les hommes, d'un côté les femmes, d'un côté les homos, d'un côté les hétéros, tout ça est absolument formidable, très très confortable. Eh ben non. En fait, la réalité est plus complexe et le théâtre ne fait que ça, que de nous rappeler que la réalité est plus complexe. Et puis avec Miss Knife, il a fait il y a 30 ans, moi c'est ce que je trouve formidable. Il a tout à fait raison de souligner d'ailleurs très humblement qu'au fond, maintenant, ça pose moins de questions qu'il y a 30 ans.
Parce que les enfants vont voir les spectacles et adorent le spectacle, oui.
Et qu'au fond, la presse est unanime, il reçoit à chaque fois beaucoup de bravos de partout. Hein, et je trouve ça vraiment formidable parce que c'est pas si facile que ça de savoir où je mets le curseur entre le masculin et le féminin.
Et oui, je voudrais qu'on continue à écouter des voix dans cette émission, Thomas Cepitelli, et qu'on entende celle d'une artiste performeuse que vous connaissez, c'est Fia Ménard, qui s'appelait et qui s'appelle toujours pour l'état civil, parce que ses papiers d'identité, elle ne peut pas les changer comme ça, Philippe Ménard. C'est donc un homme qui est devenu une femme. Elle s'expliquait au micro sur sa transformation physique et sociale, et si on la cite dans cette émission, c'est que c'est une des rares à être aujourd'hui dans ce théâtre qu'on dit théâtre public, et qui produit des spectacles et qui y a accueilli sur toutes les scènes.
Le chemin et le choix de faire de l'art, en tout cas de faire ce choix de vie, hein, pas ce métier, mais ce choix de vie, était pour moi une seule et possible sortie par rapport à une question qui m'était très intime, c'est que faire avec un corps dont je ne trouvais aucun rapport, aucun contact. L'évidence, c'est qu'aujourd'hui, je poursuis ce chemin. Se définir comme être une femme, c'est un chemin très particulier. Mais la question de l'être, oui, c'est une question évidente au quotidien. Qu'est-ce qui nous touche dans l'un, dans l'autre? Et finalement, peut-être aujourd'hui, ce qui m'intéresse plus, c'est de faire le deuil de certaines choses et de m'intéresser à la question du deuil et en même temps à la destruction de ce qui n'a pas besoin d'être.
Oui, en même temps, vous ne faites pas le deuil de tout, puisque votre nom de scène avant est Philippe Ménard, que vous avez longtemps gardé, que vous gardez un peu encore. Il n'est pas question de renier ces années-là.
Je le garde uniquement par fait de société, c'est-à-dire que dans la société française, changer ses papiers est une impossibilité actuelle. Je l'ai gardé aussi par revendication, c'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, le dialogue que j'ai avec les spectateurs à chaque issue de spectacle est aussi très porté sur des questions simples de société. Qu'est-ce que ça veut dire être transgenre aujourd'hui dans la société et quelle est la réalité de ça? Donc on a ce dialogue. Après, voilà, je fais avec, comme obligé. Je dois faire avec ce corps bricolé. Donc c'est un choix de vie et en même temps, c'est un bricolage de vie. Mais c'est un bricolage pour continuer à vivre.
Voilà, ce qui est intéressant, parmi tout ce que dit Fia Ménard, tout est intéressant, mais ce que je voudrais relever avec vous, Thomas Epitelli, c'est ce qu'elle dit du dialogue qui s'engage avec les spectateurs à la fin du spectacle. Dialogue qui porte sur le fait que Fia Ménard est transgenre, et sans doute plus sur ça que sur le spectacle lui-même. Je me demande s'il n'y a pas là quand même à la fois quelque chose de formidable, parce que l'art est le lieu où le dialogue peut s'engager, mais aussi quelque chose d'un peu piégeant. Qu'en pensez-vous ?
Ah ben je suis ravi que vous souligniez ça, parce que j'ai assisté plusieurs fois, j'ai tenu à assister à des rencontres, parce que elle présente des spectacles que j'aime beaucoup.
Ah, moi aussi, Après-midi d'un fun, Vortex, Tex, c'est quelqu'un
BPP,
de très doué.
Moi, ce sont des spectacles qui m'ont ému aux larmes, et je les ai vus plusieurs fois, et ils me nourrissent. Et en même temps, en assistant un peu d'un œil extérieur, dans mon travail de sociologue, aux rencontres avec les publics, c'est vrai que la question vient très très souvent, très rapidement, et presque exclusivement, sur la transition de Philippe à Fia. Et rarement sur l'objet circassien lui-même, là, l'objet de spectacle. Ce qui quand même, à la fois, prouve que c'est une question qui ne fait plus tabou, dans certains cercles, attention, oui. Et on arrive à poser des questions. Mais de temps en temps, je me disais, mais mince, on n'est plus dans les freak shows de la femme à barbe ou dans les entresorts. On est face à une artiste qui nous a fait une proposition artistique très forte. Quand même, elle réinvente l'art du jonglage, le travail de piste, enfin, c'est absolument formidable ce qu'elle produit. Et finalement, c'est pas ce qui vient de plus dans la conversation, et je trouve ça très dommage. C'est comme si le fait de société de sa transition venait non pas mettre une loupe sur son travail, ce qui pourrait être le cas finalement. On pourrait regarder les travaux de Fia Ménard, Fia, Philippe, et savoir comment est-ce que tout ça bouge dans sa création. Ça pourrait être intéressant. Mais non, ça vient poser un voile opaque. Et je trouve ça dommageable, peut-être, finalement, sur un travail que je trouve encore une fois bouleversant et intéressant en termes d'écriture scénique aussi.
Mais est-ce que ce n'est pas ce qui peut se produire aussi au Festival d'Avignon cet été? On ne sait pas du tout ce qu'Olivier Py va faire, parce que à la fois c'est formidable tout à coup d'attirer l'œil et l'oreille du public sur cette question qui n'est pour l'instant pas suffisamment sans doute traitée dans les milieux culturels, ou pas assez, ou pas comme il faut, je ne sais pas. En tout cas, si Olivier Py le fait, c'est bien qu'il sent qu'il y a là quelque chose qu'il faut faire avancer. Et en même temps, est-ce que ça ne va pas enfermer effectivement l'art sous la cloche du, comme vous dites, du sujet de société?
Ce que je me disais en écoutant l'annonce d'Olivier Py, c'était que, eh bien, peut-être ça allait être un festival un peu difficile, peut-être qu'on allait lire ci et là quelque chose d'énervante sur des confusions de termes ou sur des assignations très très fortes ou des réassignations très très fortes. On sait aussi très bien qu'il y a pas mal de collectifs comme la Manif pour tous qui va certainement être dans le coin pour aller débattre fortement sur ces questions-là. Très bien. Peut-être qu'en fait, c'est un moment dans cette programmation et qu'un jour, on ne posera plus la question. De toute manière, moi, je crois qu'il faut remercier Olivier Py de se saisir de ces questions-là. Après, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir qu'est-ce qui va être programmé. Ça, c'est la grande question. Parce que si une énième fois travailler sur les questions de genre, c'est présenter La Nuit des Rois de Shakespeare, malgré l'admiration que j'ai pour cette pièce, ou Iphis et Ianté, voilà, ça ne m'intéresse pas tant que ça, et ça risque de pas intéresser beaucoup le public, parce que c'est des questions qu'on a déjà entendues maintes fois réfléchies, présentées sur les scènes des théâtres.
Et c'est un peu devenu l'alibi aussi, il faut dire.
Oui, voilà,
c'est
ça. La
Nuit des Rois, c'est un peu l'alibi qui permet l'arbre qui cache la forêt.
On a une programmation queer parce
qu'on s'abrite là derrière, et on fait pas le travail finalement.
Ah ben exactement ça, parce que on se cache derrière son petit doigt en faisant ça. Et c'est une insulte, pour le coup, aux artistes qui interroge vraiment les questions de genre, et il y en a.
Mais de la même manière qu'à un moment donné, on s'est beaucoup battu dans le théâtre pour que les minorités, ce qu'on appelle les minorités, soient présentes sur les scènes, puisque il n'y avait effectivement pas d'acteurs noirs distribués, pas d'acteurs arabes distribués. Et donc, il y a eu un gros mouvement de prise de conscience qui a opéré et qui commence, je pense, à porter ses fruits. Est-ce que vous diriez, Thomas Epitelli, que si ce combat-là de l'apparition des transgenres, des transsexuels sur le plateau théâtre, je sais que le mot n'est pas exactement celui que vous préférez, mais des transidentitaires sur le plateau théâtre, si ça n'a pas lieu, est-ce que le théâtre ne va pas tourner le dos à sa vitalité? Est-ce qu'il ne va pas faire la preuve qu'il est mortifère? Et est-ce qu'il ne va pas définitivement rester coincé sur les rives du XXe siècle?
Alors, c'est très certainement, puisque il me semble que la question transidentitaire est une question qui intéresse tout le monde. Parce que
c'est interrogé. Et c'est demain.
Exactement. C'est interrogé la binarité de genre. Et ça nous intéresse toutes et tous. Parce qu'au fond, c'est la question qui se joue aussi dans l'homophobie, c'est la question qui se joue dans la misogynie. C'est les rapports de force du masculin et du féminin. Ce qui est absolument formidable quand il y a travestissement. Chez Shakespeare, par exemple, on se travestit en homme pour savoir. C'est quand même formidable quand on y pense. C'est-à-dire que le savoir est du côté du masculin. Exactement comme chez Marivaux, on change de classe sociale pour en savoir plus et pour manipuler. C'est quand même absolument formidable quand on y pense. Et les deux questions, à mon avis, ont beaucoup à entrer en écho. Hein, qui aurait certainement des études comparatistes à mener là-dessus. Effectivement, les scènes, les programmateurs aussi, les spectateurs, ne pourront pas faire l'économie d'aller regarder de ce côté-là. Parce qu'il y a des spectacles dont on sort différent sur ce que c'est que la construction du masculin. Vraiment. Je pense par exemple à une jeune performeuse qui s'appelle Una Doherty, qui a travaillé au Festival Parallèle à Marseille il y a quelques semaines maintenant, et qui a vécu en banlieue, dans différentes banlieues d'Europe, pour savoir comment est-ce que les garçons, jeunes adolescents ou pré-adultes, se comportaient physiquement à l'arrivée d'une fille. Elle est une femme cisgenre, hein. Et elle passe par des états de corps de ce que sont les masculinités au travail aujourd'hui, qui sont, et je pèse mes mots, bouleversantes. Et je suis sorti de ce spectacle changé sur mon regard sur les masculinités. Et c'est un spectacle de 40 minutes. C'est avec un dispositif scénique, on ne peut plus simple puisque la scène est vide. Mais il n'y a pas de grand discours derrière. Il y a une immédiateté de la compréhension du signe. Et c'est formidable. Parce que c'est la porte ouverte à nous interroger nous-mêmes, en sortant, sur que faisons-nous avec ça, avec nos masculinités et nos féminités.
Est-ce que vous ne trouvez pas contradictoire, Thomas Epitelli, qu'au fond, on dise tout le temps le travestissement, c'est l'ADN du théâtre, ce qui est à la fois une vérité et quand même malgré tout un peu un abus, puisque vous faisiez allusion à Shakespeare, mais que ce soit dans le kabuki japonais, que ce soit chez les tragiques grecs, les hommes jouaient en scène, les femmes ne jouaient pas, et donc les hommes jouaient les rôles de femmes parce que les femmes n'avaient pas le droit
Exactement. De
jouer sur la scène. Donc le travestissement au théâtre, dans le théâtre antique, dans le théâtre shakespearien, il est né d'un interdit. C'est assez troublant de se dire finalement que ce qu'on pense être une forme de prise de liberté ou de moralité affranchie est née simplement de l'interdiction faite aux femmes de monter sur les scènes.
Oui, parce que le travestissement, est chez les Élisabéthains, hein, ou bien chez les Grecs, mais aussi chez les Romains, à savoir quand même que chez les Romains, les femmes pouvaient jouer dans les mimes et elles se dénudaient. Et ça, on va encore un peu plus loin que chez les Grecs. Et effectivement, mais il n'y a pas de travestissement là dans le spectacle. Au fond, quand on passe le contrat de dire, oui, cet acteur joue Thésée ou cet acteur joue Oedipe. Bon, ben finalement, il n'y a pas plus de raison qu'on n'y croit pas qu'un homme déguisé en femme, enfin un acteur déguisé en femme qui joue Phèdre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une convention comme une autre, après tout. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, le travestissement, il n'est non pas dramaturgique, il n'est pas dramatique, mais il est sociétal. Il est une convention sociale, donc une convention politique. Et donc, du coup, on arrive chez Shakespeare à avoir des jeunes gens déguisés en femmes, qui dans la pièce se déguisent en jeunes gens. C'est quand même, mais c'est le cas de Viola dans La Nuit des Rois. Hein. Ça commence à être très très complexe dans le contrat de visibilité et d'identification et de ce qui peut être compréhensible au théâtre, tout de même. Hein. Surtout quand on repense aux manières dont se jouaient les spectacles élisabéthains. Et finalement, la question du réel, du travesti en scène comme un personnage travesti, vient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard dans l'histoire. Hein. Bien sûr, on a toujours quelques exemples, ci et là, hein, de pièces où un garçon est élevé comme une fille ou une fille comme un garçon. Celsa, dans le cas d'Henri Fils et Yanté, c'est intéressant parce qu'on élève une petite fille comme un garçon pour pas qu'elle soit tuée. Sauf qu'au bout d'un moment, une fille tombe amoureuse de ce garçon qui n'est pas vraiment un garçon. Va falloir lui dire, hein, ça crée quand même un ensemble. Mais on a quand même le début de ce que c'est qu'une éducation transidentitaire. Puisque seule la mère, dit fils, sait qu'elle est née fille. Et ça, je trouve ça absolument passionnant. Mais sur la question du travestissement, il y aurait tant à dire et tant à faire encore. Une des grandes figures, c'est Coppi, au XXe siècle. Coppi, qui est un homme cisgenre, qui joue sur scène le rôle de femme trans. Alors, transsexuel dans la plume de Coppi, dans Le Frigo par exemple, hein, dans Le Frigo et la femme assise, qui est une pièce absolument formidable, malheureusement je trouve qu'on joue trop peu. Et ça c'est très intéressant parce que, à mon avis, il en va aussi de la lecture des pièces sur la transidentité comme sur de l'homosexualité. C'est méfions-nous de ne pas poser une grille transidentitaire et ou homosexuelle parce que l'auteur est trans ou homosexuel. Tous les spectacles de Fia Ménard ne parlent pas de la transidentité. Toutes les pièces de Jean-Luc Lagarce ne parlent pas d'homosexualité. Je m'évertue à le répéter, les personnages homosexuels chez Lagarce sont rares. Pour autant, on a dit, oui, c'est un auteur homosexuel. Oui, mais alors à ce moment-là, c'est pas pour ça que dans Music Hall, la girl est une transidentitaire. Pas du tout, c'est marqué la fille. Moi, si je suis un peu bête, hein, j'ai la fille, eh bien voilà, elle parle d'elle au féminin, c'est une fille. Pourquoi est-ce que je devrais en faire un personnage travesti? Ou pourquoi est-ce que je devrais jouer là-dessus? Pourquoi pas? Mais c'est une réelle lecture dramaturgique et du coup politique de la pièce.
Music Hall, la boucle est quasiment bouclée d'ailleurs. Thomas Epitelli qui a été joué par Fanny Ardant.
Exactement,
au théâtre, ouais, des Bouffes du Nord. Je voudrais vous poser une toute dernière question. C'est la question du militantisme et je sais que je m'adresse à un militant. Il y a un théâtre à Paris qui est la Manufacture des Abbesses dans le nord de Paris où on a pu voir cette saison un premier spectacle qui s'appelait Le Captif qui mettait en scène un personnage transgenre. Et là, actuellement, jusqu'au 7 mars, on peut voir un autre spectacle intitulé « Nouveau » au pluriel, « Genre » au pluriel, qui met en scène une femme s'interrogeant sur son genre. On peut déduire que, petit à petit, la Manufacture des Abbesses, dans le 18e arrondissement parisien, est en train d'occuper un créneau, de prendre une place et peut-être de se faire l'écho, le porte-parole, le porte-voix, sans doute, de ce combat-là. Est-ce que vous pensez qu'il faut du militantisme ou pas en art sur ce terrain-là, Thomas Epitelli?
Sur celui-ci, comme sur les autres terrains, il me semble, je pense que ça continue de rester un geste militant de produire des spectacles, d'en jouer et d'aller les voir, parce que ça nous confronte à l'altérité. Et qu'il me semble que c'est quelque chose dont on a terriblement besoin.
Je veux tes yeux. Que tes beaux yeux seulement en photo, je veux les deux. Je veux les deux sans sentir ta peau. Connecté en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends. Qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens. Peut-être j'en tremble, faudrait pas que tu penses.
Merci beaucoup à vous, Thomas Epitelli, d'être venu nous éclairer. Nous avons évoqué Fia Ménard dans l'émission, un de ses spectacles. Les Eaux Noires est actuellement en tournée. Vous pouvez le voir à Lyon du 3 au 8 mars au théâtre Nouvelle Génération. Quant au cabaret de Olivier Py, les premiers adieux de Miss Naef, il vient d'achever une première tournée. Espérons que le spectacle se reprenne à Avignon cet été, bien évidemment, dans le cadre du festival.
Je préfère pas, je préfère l'illusion de t'avoir, j'ai espoir, mais t'inventes pas trop d'histoires. Okay.
Vous pouvez, et même vous devriez, podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre.
Ça m'apprendra que je veux tes yeux.
Bientôt 16h, Inès Duperron, Pascal Baudin, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent. Restez à l'écoute de France Culture.